Bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore croisés. Meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse richement durant cette année 2017 et qu'il puisse se manifester à vos côtés dans votre cheminement sur cette terre. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le premier livre des Rois. C'est un texte qui est connu, sur lequel par ailleurs il y a déjà eu quelques prédications. Un roi chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva, qu'il s'agit bien évidemment d'Élie, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi aussi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, et la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile était dans la cruche, qui était dans la cruche, pardon, ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Merci Seigneur pour ta parole qui est là, vérité, vie, pour nous instruire, pour nous enseigner, nous encourager, nous corriger peut-être, et pour nous apporter, Seigneur, cette nourriture spirituelle que tu veux nous donner. Alors Seigneur, que ta parole fasse son chemin dans nos vies et qu'elle ait un impact dans chacune de nos carrières, de nos vies. Ici-bas, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, notre récit se déroule sous le règne du roi Akab, le terrible roi Akab, un roi qui a conduit le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, dans l'abandon de l'Éternel, et de son épouse Jézabel, qui signifie impudique. Jézabel, cette union que le roi d'Israël, Akab, fit avec Jézabel, qui était une femme étrangère, c'était une phénicienne, elle ne connaissait pas Dieu, a encore enfoncé davantage l'état moral et spirituel du peuple d'Israël dans la misère la plus profonde. Pourquoi ? Parce que pour faire plaisir à son épouse, Jézabel, Akab a introduit des lieux de culte pour que le peuple vénère les dieux Baal et Astarté. Baal et Astarté sont souvent, même toujours, réunis ensemble. C'est un couple de faux dieux. Baal et Astarté, le culte de Baal et Astarté était répandu dans bon nombre de pays du Moyen-Orient antique. Et, avec cette introduction dans le royaume d'Israël, le peuple de Dieu a complètement mis de côté le Dieu véritable au profit de ses statues, au profit de ses idoles. Ce n'est pas tant, finalement, les statues en elles-mêmes qui posaient problème. Ça, c'est de la dévotion, de l'idolâtrie grossière. Mais c'était surtout les rites cultuels qui accompagnaient l'adoration de ces faux dieux qui posaient problème et qui étaient préjudiciables. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces rites constituaient, d'une part, en incision sanglante, scarification dans la chair. Ainsi, les prêtres et les adeptes de cette religion pensaient avoir plus d'impact auprès de leurs faux dieux. Et à côté de ça, il y avait aussi des sacrifices humains qui étaient organisés, des sacrifices d'enfants qui étaient brûlés vifs, d'où l'expression « ils firent passer leurs enfants par le feu ». On trouve ça notamment dans Jérémie au chapitre 19, verset 5. À côté de ces scarifications, de ces incisions dans la chair, de ces sacrifices d'enfants, il y avait aussi des orgies sexuelles qui accompagnaient donc cette dévotion rendue en l'honneur de ces faux dieux. Et il y avait pour cela des prostituées sacrées, entre guillemets, et même des prostituées sacrées qui s'adonnaient à des rites tout à fait, à des pratiques de débauche. Pas étonnant d'ailleurs que la Bible appelle ces pratiques des abominations. Et c'était effectivement des abominations. Et ces rites qui accompagnaient la dévotion en l'honneur de ces faux dieux Baal et Astarté, eh bien, étaient censés amener Baal à s'unir avec Astarté. Et le signe de cette union, ben, c'était la pluie qui assurait la bonne récolte et le sol, la fertilité au sol. Il faut savoir effectivement que Baal était le dieu suprême de toute une série de pays du Moyen-Orient, comme je le disais il y a un instant. Et c'était le dieu suprême. Astarté, quant à elle, c'était une déesse qui était à la fois la reine du ciel et des étoiles. Je pense que c'est en rapport avec son nom, Astar. Il aurait donné en anglais « a star », ça c'est pas certain, mais en tout cas c'est ce que certains pensent. Et c'est elle aussi la déesse de la fertilité et de la fécondité. Et donc l'éternel Dieu, le seul vrai Dieu, était mis de côté, était abandonné. C'est alors que Élie apparaît, rentre en scène et il est envoyé par Dieu auprès d'Akab pour lui décerner la sanction divine. La pluie ne tombera plus. Le pays d'Israël, la terre d'Israël, va connaître 3 années et demie de famine et de sécheresse jusqu'à ce que la parole de Dieu intervienne pour mettre un terme à cette sécheresse. Il n'y aura plus ni rosée ni pluie en Israël, nous dit le texte. Dieu ne va pas oublier pour autant son serviteur Élie le prophète. Il va l'envoyer, comme nous le savons, à l'est du Jourdain, dans une localité où il y a un torrent qui n'a pas encore été asséché touché par la sécheresse, le torrent du Kérit. Et là, Élie le prophète va pouvoir s'abreuver abondamment comme il le veut, et matin et soir, Dieu va pourvoir à ses besoins en envoyant de façon miraculeuse des corbeaux. Ils vont lui déposer du pain et de la viande, des céréales et des protéines, l'essentiel pour sa survie. Dieu va prendre soin d'Élie. Et ça va durer un certain temps, jusqu'au moment où le torrent du Kérit va lui aussi être touché par la sécheresse. Et alors, Dieu va parler de nouveau à Élie et il va lui dire, « Élie, maintenant tu vas aller chez une veuve à Sarepta. » C'est donc sur ce tableau que se dessine le texte que nous avons lu en introduction. C'est sur cette toile de fond que vient s'inscrire, en quelque sorte se dessiner, le texte que nous avons lu. À côté des symboles que l'on peut tirer de l'eau, de la farine et de l'huile, ce qui m'a interpellé dans la lecture de ce texte, c'est la dimension de la foi de cette veuve de Sarepta. La dimension de sa foi. Bien sûr, la foi d'Élie n'est plus à prouver, on la connaît. Il suffit de se souvenir, entre autres, de cet épisode où Élie va défier 400 prophètes, ou 450, je ne sais plus, 400 prophètes de Baal, après que chacune des parties ait préparé son autel. Élie va dire que le Dieu qui répondra par le feu pour consumer le sacrifice, le feu venu du ciel, venu d'en haut, sera le vrai Dieu, Baal ou l'Éternel. Et pour montrer que le Dieu qu'il adore est vraiment le Dieu de l'impossible, qui va même jusqu'à défier les lois physiques qu'il a lui-même établies, Élie va verser de l'eau sur le bois qui servira au sacrifice. Et tout aux alentours de l'autel, dans le fossé qu'il y a là, creusé autour. Il y a plein d'eau. Élie est convaincu que sa foi est une foi efficace. Élie est convaincu que sa foi sera agissante. Élie est convaincu que le Dieu auquel il s'adresse va intervenir. Et c'est aussi cette même foi qui habitait Abel, Noé, Abraham, Moïse et bien d'autres de ces héros de la foi qu'on trouve dans Hébreux 11. Cette foi qui a animé nos prédécesseurs est aussi cette foi qui anime le prophète. Et on trouve ça dans l'épître aux Hébreux chapitre 11, comme on le sait bien. Quant à notre veuve de Sarepta, elle vit dans un pays qui est en fait le fief des idoles Baal et Astarté. C'est aussi le pays d'origine de Jézabel. Et elle a reçu une révélation de Dieu, au même titre qu'Abraham, avant elle, a reçu, dans plein milieu païen, en plein paganisme, une révélation de Dieu aussi, qui lui demande de nourrir et de prendre soin de son prophète Élie. On trouve ça au verset 9 que nous avons lu. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie obéit sans se poser de questions, l'obéissance de la foi, le grand saut. Il quitte le torrent du Kérit, qui se trouve donc à l'est du Jourdain, en Galade, pour rejoindre Sarepta. Il faut savoir que les deux localités sont distantes à vol d'oiseau d'environ 110 km. Mais Élie va partir. Élie va obéir à Dieu. Élie va écouter la parole de Dieu. Et à peine est-il arrivé, entré dans la ville de Sarepta, fatigué, assoiffé, qu'il rencontre une veuve qui est en train de ramasser du bois. Et alors à cette veuve, il va s'adresser et il va lui dire, « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Alors jusque-là, il n'y a pas d'objection de la part de la veuve. Peut-être qu'elle avait un puits profond à proximité. Mais juste après lui avoir demandé de l'eau, il la rappelle et lui dit, tiens, apporte-moi aussi un pain. Il dit, tiens, apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. Là, elle se montre plus dubitative, plus réticente, et elle va lui dire, mais il ne me reste plus rien. Il me reste juste une poignée de farine et un peu d'huile dans un fond de cruche. Je m'en vais préparer un pain pour mon fils. Je ramasse ces deux morceaux de bois. Deux morceaux de bois seront largement suffisants pour cette maigre cuisson. Et je vais manger, et puis on va attendre la mort. Il n'y aura plus que la mort à attendre. Et puis, mais il y insiste et lui dit, mais fais comme tu dis, mais d'abord prépare-moi quelque chose. Et puis tu verras, tu trouveras encore de la farine dans ton pot et de l'huile dans ton pot jusqu'à ce que la pluie arrive. Il lui faut une fameuse dose de foi, hein, quand même. Je pensais à ça, ça me faisait rire, cette bête illustration. Imaginons que Jean-Pierre et Gino soient en plein désert avec un mouchoir sur la tête. Oh, la langue, la gorge asséchée, avec de la transpiration, de grosses gouttes qui coulent de leur front. Et puis que dans la gourde de Jean-Pierre, il n'y a plus rien chez Gino, il a déjà tout bu, il n'y ait plus que l'équivalent d'un seul verre d'eau. Jean-Pierre a beau être généreux, je ne suis pas convaincu qu'il partagerait ce verre d'eau dans de telles circonstances avec Gino, même si un ange du ciel venait de lui demander, venait de lui dire, bon, écoute, partage avec Gino, je ne suis pas certain. Et c'est légitime. Ma grand-mère, elle est partie il y a quelques semaines, elle était formidable. C'est la grand-mère aussi de Nathalie, de Jean-Pierre, d'Ingrid, de Myriam. Elle me racontait que pendant la guerre, la dernière guerre, elle avait dû fuir avec son fils aîné, donc mon père, et puis ses beaux-parents, ses parents peut-être aussi, je ne m'en souviens plus, et tout un groupe de personnes vers la France pour fuir les bombardements. C'était un trajet qui a duré plusieurs jours, un trajet fatigant. Ils avaient faim et lors d'une étape, ils s'arrêtaient là où ils pouvaient, dans une usine. Il y a mon arrière-grand-mère qui a trouvé un sac de pain un peu rassis, encore bon. Et alors, dans sa générosité, elle a dit à ceux qui étaient là, « Je vais partager le pain avec vous, mais avant, il faut que je nourrisse mes proches. » Avant, il faut que je pense à nourrir, à soigner ma famille. Après, je vous donnerai. Après, je partagerai avec vous. Et finalement, c'est une attitude légitime. Quoi de plus logique, finalement, si on trouve quelque chose, de penser d'abord à soi, et puis de penser aux autres, surtout dans de telles circonstances. Comme c'était aussi logique pour la veuve de Sarepta de penser à elle et à son fils, avant de penser à Élie. Pourtant, la veuve de Sarepta, elle a tout donné. Elle n'a rien gardé pour elle. Le peu qu'elle avait, elle l'a donné à Élie, au prophète. Tout comme cette pauvre veuve dans les évangiles que Jésus loue, parce qu'elle a déposé tout ce qu'elle avait, son nécessaire, ses deux pièces, dans le tronc du temple. Ou encore, tout comme ce jeune garçon qui, lors de la multiplication des pains, eh bien, a donné tout ce qu'il avait, les 5 pains et ses 2 poissons, à Jésus. Il aurait pu aussi garder une partie pour lui, il aurait pu garder un poisson et un demi-pain. Il a tout donné. Jésus nous a tout donné. Il attend aussi en retour que tout ce que nous sommes, et même tout ce que nous avons. Élie aurait pu accomplir le miracle sans vider le pot de farine et le pot d'huile de la veuve. Élie aurait pu accomplir le miracle du Dieu sans demander à la veuve de se défaire de ce qu'elle avait. Pourtant, la veuve a tout donné. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'Élie a demandé à cette veuve de lui donner avant tout le peu qu'elle avait, puis faire le miracle? Pourquoi est-ce que Élie a demandé à cette veuve de lui donner d'abord le peu qu'elle avait et puis de faire le miracle? Alors il y a certainement plusieurs éléments de réponse qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais je pense que un élément de réponse que l'on peut affirmer, c'est que si Élie a demandé à la veuve de se défaire du peu qu'elle avait, c'était parce qu'elle avait besoin, pour expérimenter la vie par la foi, de se détacher de toute sa vie sensorielle. Elle avait besoin de se détacher, en particulier ici, de ce qu'elle voyait, de sa vue. Vous savez, quand on fait l'état des lieux, des circonstances, c'est souvent un obstacle à la foi. c'est souvent un obstacle à la foi. Pourquoi ? Parce que la foi, elle ne s'appuie pas sur ce qui est visible. Elle ne s'appuie pas sur ce qui est matériel, sur ce qu'on voit. La foi, elle va au-delà du visible. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira d'ailleurs, on le sait, Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas, ou bien qu'on espère. C'est la conviction de ce qu'on ne voit pas. La foi va au-delà de la vue, au-delà de nos sens. C'est Martin Luther King, pour donner deux citations, qui a dit de la foi, avoir la foi, c'est monter la première marche de l'escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. La foi, c'est monter la première marche de l'escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et puis Charles Spurgeon, ce grand évangéliste britannique dont le ministère a secoué les îles britanniques, a dit sur la foi, une petite foi va amener notre âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel dans notre âme. Et c'est vrai. La foi peut beaucoup. Une petite foi va amener notre âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel dans notre âme. Rien n'est impossible à Dieu. Le pot de farine et la cruche d'huile étaient vides pour la pauvre veuve de Sarepta. Mais elle a gardé sa confiance en Dieu. Elle a eu foi en l'Éternel. Elle a eu foi en ce Dieu de l'impossible. Et Dieu a honoré la foi de la pauvre veuve. Il a rempli son pot de farine. Il a rempli sa cruche d'huile. Non, la foi ne s'appuie pas sur le visible. La foi ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit ou bien sur ce qu'elle ressent. Ou bien sur les circonstances. La foi ne peut pas s'appuyer là-dessus. La foi, elle s'appuie sur ce qu'on entend. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Hein ? La foi, elle s'appuie sur ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Dieu a dit, Dieu a promis, ce n'est pas un Dieu qui ment, c'est le Dieu de vérité, et ce qu'il a promis et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ça se fera. Et c'est ça la foi. Elle s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Le verset clé de ce passage que nous avons lu, eh bien, c'est le verset 15 où nous lisons, en rapport avec cette veuve qui a accordé sa foi entière en la parole de Dieu, « Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. » La foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. C'est par la foi aussi, un autre exemple, en Hébreux chapitre 11, verset 11, que Sarah, alors qu'elle était vieille, avancée en âge, fut rendue capable d'avoir une postérité, un enfant, Isaac. Pourquoi ? La suite du verset nous le dit. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La réalisation de quelque chose d'inconcevable, d'inimaginable à vue humaine, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. L'apôtre Paul va dans ce même sens lorsqu'il écrit en Romains 4, verset 21, « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Cette conviction en la parole de Dieu. Cette conviction des choses qu'on ne voit pas, mais qui vont arriver. Parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu l'a promis, parce que Dieu l'affirme. Nous en arrivons déjà à la conclusion. Hein ? La veuve n'avait rien. Mais elle savait, elle était convaincue que Dieu avait tout, a tout. La veuve était pauvre, mais elle était convaincue que Dieu est riche. Dieu veut remplir nos pots de farine ou d'autres choses ce matin. Nous avons besoin d'un acte de foi. Cependant, malheureusement, beaucoup d'entre nous ne progressent pas dans la foi, dans la vie chrétienne, parce que, précisément, notre foi ne dépasse pas nos sens. Notre conviction, notre foi ne dépasse pas ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir. Notre foi ne dépasse pas nos sens. Et pourtant, Dieu souhaite que nous puissions expérimenter toujours davantage la vie par la foi. Et notre prière est un petit peu celle que les disciples ont adressée à Jésus quand ils étaient dans la barque. Augmente en nous la foi, alors que Jésus s'est montré maître des éléments et il paniquait à bord. Puis la prière des disciples est aussi peut-être notre prière ce matin. Augmente en nous la foi. Et Dieu souhaite que nous puissions aussi affirmer avec l'apôtre Paul ces paroles qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, si je me souviens bien, où l'apôtre Paul dit « Nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. » Dieu souhaite que nous puissions affirmer avec l'apôtre Paul ces mêmes propos, ces mêmes paroles. Nous marchons non par la vue, nous marchons par la foi. Que Dieu nous aide dans le courant de cette année, peut-être, à expérimenter davantage cette vie par la foi, sans laquelle, nous dit aussi la parole, nul ne peut plaire à Dieu, finalement. Dieu est le Dieu tout-puissant, Dieu, notre Dieu est un grand Dieu, est le Dieu de l'impossible. Il attend une chose de notre part, c'est que nous puissions lui accorder une pleine et entière confiance, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Ce n'est pas facile. C'est l'apprentissage de toute une vie, finalement. Mais c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants.